RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui au Soudan du Sud, l'État le plus jeune au monde, indépendant depuis un référendum de 2011 et après d'intenses conflits entre Khartoum et différentes factions armées qui ont duré plus de 20 ans. Mais la fête de l'indépendance n'a pas duré. Dès 2013, le jeune État fait face à la guerre civile qui oppose deux acteurs principaux, le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar, et qui ont attiré à leur suite leur clan ravivant les tensions ethniques. L'ONU a alerté sur les risques de génocide dans le pays. Les groupes armés se multiplient au Soudan du Sud qui manque encore de tout. Les affrontements touchent différentes régions mais aussi la capitale, Djouba. Et aujourd'hui, un calme précaire règne dans cette ville. Djouba, un quotidien dicté par la guerre. Grand reportage signé Charlotte Cosset.
Djouba, une ville entre deux mondes. Un monde catholique avec ses églises, ses croix et son alphabet occidental, et le monde arabo-musulman, sa musique, ses mosquées, le sable brûlant. Beaucoup de Sud-Soudanais ont trouvé refuge dans la capitale lors du début de la guerre civile en décembre 2013. Un conflit qui a très vite pris une tournure ethnique. À Djouba, beaucoup de Nuer cherchent alors protection auprès de la mission de l'ONU, la MINUS. Des camps de protection des civils, des PI aussi censés être temporaires, sont organisés. Aujourd'hui, près de 40 000 personnes y vivent, entassées sous des abris faits de bâches. Autour, des fils barbelés, des portes grillagées sont fermées et gardées nuit et jour. Une zone sans armes a été négociée avec le gouvernement, une zone de 200 mètres autour du camp. À l'intérieur, les réfugiés survivent. Un quotidien difficile, surtout pour les femmes et les enfants. Pour échanger sur ces défis, nous parlons à un petit groupe de voisines. Ce qui manque le plus à Teresa, c'est la liberté.
La différence, c'est que lorsque j'étais à Abyei, j'étais libre. Mais maintenant, dans le camp de la MINUS, je ne le suis pas.
Les températures dépassent régulièrement les 40 degrés. Le manque d'eau se fait vite ressentir. Un jerrycan maximum par jour pour laver toute la famille, faire la cuisine et la lessive, un défi quotidien.
Je suis limitée dans tout ce que je fais. J'obtiens de l'eau à la citerne, je vais la chercher jour après jour. Mais si je prends de l'eau aujourd'hui, demain je n'en aurai pas. Demain, ce sera au tour de ceux qui n'en ont pas eu aujourd'hui.
Pour Elisa, la voisine de Teresa, les difficultés sont les mêmes.
Pour obtenir de l'eau, il faut aller à la pompe. Si vous arrivez tard, vous en aurez sûrement qu'un jerrycan. Dans ce cas, je l'utilise pour la cuisine et je ne lave pas les vêtements. Si j'obtiens deux jerrycans, j'en utilise un pour cuisiner et un pour laver les vêtements des enfants. Et si j'obtiens ces deux jerrycans d'eau dans une même journée, cela signifie que je n'aurai pas assez d'eau demain.
Ici, beaucoup de femmes. Et quand vient le temps des menstrues, la tâche devient vraiment difficile. L'argent se fait rare pour pouvoir acheter des protections hygiéniques. Il faut donc se débrouiller, explique Mandé.
Quand mes règles commencent, j'essaie de me couvrir, de me cacher dans la douche et me laver, même s'il n'y a pas de savon. Je n'ai pas d'argent, mon mari est dans la rébellion, il n'y a pas d'homme ici pour m'aider. Alors quand ça vient et que je n'ai rien pour me protéger, j'utilise des serviettes de toilette.
Isaac Simon, réfugié venu de Lania, travaille au département des droits de l'homme du comité de gestion du camp. Calme, l'homme est conscient de tous ses problèmes.
Les défis auxquels nous faisons face sont vraiment trop nombreux. Parmi eux, les questions sanitaires. Ici, l'espace est vraiment petit. Beaucoup de personnes utilisent les mêmes commodités qui sont vraiment limitées en nombre. Les enfants rencontrent aussi beaucoup de problèmes à ce sujet. Quand ils vont aux toilettes, certains y vont pieds nus.
Ici, on ne pose pas la question de l'ethnie, mais de l'origine de la personne. Pourtant, Nia Lene, immense femme au visage marqué par les scarifications, ne peut cacher son appartenance à l'ethnie Nuer. Elle doit y faire face seule.
Mon mari a été tué par balle pendant les combats. Je reste dans le camp de l'ONU parce que j'ai des enfants et les Nations Unies les nourrissent. Je n'ai pas d'autre option.
Vivre ici sans mari, un sujet sensible. Elisa préfère en parler au conditionnel.
Peut-être que votre mari a été tué dans le bush. Il n'y a pas de savon pour laver les vêtements de votre enfant. Et il n'y a personne pour vous aider, même pas vos parents qui sont à l'extérieur du pied aussi. Et lorsque vous êtes une petite famille, il n'y a pas assez de nourriture. Il faut sortir du camp et trouver un emploi. La vie dans le pied aussi est difficile, surtout pour les femmes. Les hommes qui auraient pu nous aider, comme nos maris, ne sont pas là. Ils sont peut-être morts.
Pour toutes ces femmes, les dangers sont nombreux. Elles doivent régulièrement sortir du puits aussi pour travailler ou collecter du bois. Des choses simples du quotidien qui peuvent tourner à la catastrophe. Nyalene est effrayée.
Le plus difficile dans le puits aussi est de trouver du charbon. C'est très difficile parce qu'on n'a pas d'argent en notre possession pour acheter ce genre de choses. En général, je ne vais pas avec les autres femmes dans la brousse pour collecter du bois de chauffage parce que j'ai peur d'être tuée là-bas. Ma voisine a été tuée dehors et maintenant ses enfants sont tout seuls.
Dans son rapport annuel sur les droits de l'homme, les Nations Unies rapportent des cas de viol collectif, de disparition et d'enlèvement de femmes. Des cas de plus en plus nombreux dans les pays aussi selon ce rapport. Isaac Simon s'inquiète des arrestations qu'il dit arbitraires.
Concernant le combustible pour cuisiner et la nourriture, certaines se débattent ici. Elles sortent pour collecter du bois de chauffage. Ainsi, elles peuvent le vendre pour avoir du pain dans la journée. Mais elles peuvent être confrontées à des problèmes, être tuées, violées, ou parfois tout simplement être arrêtées. À l'extérieur, vous n'avez pas de porte-voix pour vous plaindre. Parce que le gouvernement affirme, ce ne sont que des criminels que nous avons arrêtés là-bas. Mais dans les faits, nous découvrons que ces personnes étaient simplement sorties chercher du bois pour avoir à manger.
Toujours dans ce rapport, l'ONU s'inquiète aussi des cas de recrutement dans les pays aussi, à la fois par le gouvernement et la rébellion. Isaac Simon, lui, est révolté par l'injustice.
Personne ne rentre ici. Cependant, parfois, le gouvernement accuse les personnes du POC et ensuite, vous découvrez que certains ont été emmenés. Et si quelqu'un va dehors, il n'y a pas de suivi. Aussi, il y a un conflit de souveraineté, un problème d'application de la loi et de la justice. Lorsque quelqu'un est accusé de l'extérieur, il n'y a pas de preuve qui démontre que la personne a fait quelque chose de mal. Mais parfois, ils viennent, prennent des gens et ensuite les remettent au gouvernement. Comment pouvons-nous avoir confiance? On ne peut même pas avoir confiance en restant ici. C'est en cela que l'on devient vraiment exposé au danger.
En ces temps de guerre, la mort est omniprésente, même dans les sites de protection des civils. La promiscuité, la malnutrition, les épidémies, les blessés mal soignés. Un hôpital de fortune a été construit à l'intérieur par la force des choses. Les réfugiés refusaient d'aller se faire soigner en ville, de peur de ne jamais revenir. À l'entrée, sur un grand tableau blanc, les cas traités au fil des mois sont égrenés au marqueur bleu. Paludisme, infections respiratoires et diarrhées tiennent le haut du classement. Les chiffres s'étalent. Près de 80 000 consultations menées l'année dernière, plus de 200 par jour. Dans un couloir de l'hôpital construit de panneaux préfabriqués, un vieillard est allongé. On ne sait s'il dort ou s'il est mort. Un médecin explique que la chaleur est infernale dans les box. Les malades préfèrent rester dans le couloir où circule un infime courant d'air. Ce vieil homme souffre d'un cancer. Il refuse d'être alimenté. Officiellement, en 2017, 180 personnes sont décédées dans les pays aussi. Mais certains humanitaires avancent des chiffres vertigineux. 3 à 5 morts par jour. Dans le conteneur non climatisé de l'hôpital qui sert de morgue, deux corps attendent d'être enterrés. Enterrer ces morts, un réel défi. Pourtant, le cimetière ne se trouve qu'à quelques centaines de mètres à l'extérieur du POC. Là-bas, de nombreux incidents ont eu lieu. Des escortes de l'ONU sont désormais organisées pour accompagner les réfugiés en deuil. La MINUS est en tout 17 000 hommes pour l'ensemble du Soudan du Sud. Une goutte d'eau dans ce pays où des combats se déroulent dans plusieurs régions et où les routes sont quasi inexistantes. Les moyens sont trop petits et les escortes nécessaires vers le cimetière ne sont pas toujours assurées, rapportent sur le terrain certains travailleurs humanitaires. John en a fait l'expérience. Sa femme était enceinte de jumeaux. Elle a fait une fausse couche. Les bébés sont morts-nés.
Lorsque c'est arrivé, c'était pendant le week-end. Nous ne pouvions pas attendre que les services soient disponibles. Nous nous sommes engagés en tant que famille et nous sommes allés au cimetière. Nous avons creusé et enterré nos enfants, seuls.
La ville de Djouba est aussi endeuillée. Des petits cimetières quadrillent la capitale. Mais beaucoup sont à l'abandon. Des herbes hautes dévorent les tombes. Dans celui-ci, des déplacés y ont même trouvé refuge. La mort est devenue un vrai business. Marie porte une robe en kitengé jaune élimée à l'effigie de Salva Kiir, le président du Soudan du Sud. Elle n'a pu retourner sur la tombe de sa belle-mère depuis l'enterrement, comme le voudrait la tradition.
Normalement, lorsque vous enterrez quelqu'un, vous devez retourner régulièrement au cimetière pour nettoyer la tombe et vérifier que tout va bien. Mais maintenant, à cause de l'insécurité, ce n'est pas possible. Si vous avez de l'argent, vous pouvez louer les services de la police ou de l'armée pour vous escorter. Mais moi, je n'ai pas cet argent.
Et puis, il y a eu le défi du banquet pour la cérémonie. La nourriture est déjà difficilement accessible pour les repas du quotidien.
Il y a des problèmes pour la nourriture. Il n'y a pas d'argent et les produits sur le marché sont très chers. Même lorsque vous avez de l'argent, vous ne pouvez acheter que de très petites quantités. Et il y a beaucoup de personnes aux funérailles. Ça a été difficile de tous les nourrir.
Se nourrir à Djouba est devenu un vrai défi. Le prix de la viande, par exemple, a été multiplié par deux depuis le début du conflit. La guerre a déplacé des millions de personnes. Ce pays qui vit majoritairement de l'agriculture ne produit presque plus. Les combats et la peur d'être tué dans les champs empêchent les rares personnes restées au village à cultiver. La moitié de la population souffre de la faim. L'UNICEF estime qu'1,3 million d'enfants étaient en situation de malnutrition aiguë au mois de mai. En plus de la rareté des produits, il y a le problème de la monnaie. L'inflation est rampante, la valeur du pound sud-soudanais est en chute libre. Un marché noir s'est constitué. John et David sont étudiants. Nous roulons pendant plus d'une demi-heure dans les rues de la capitale. L'un d'entre eux me fait signe. Je dois baisser mon micro, il ne doit pas être vu de l'extérieur. Tous deux achètent ou vendent sur le marché noir. David s'exprime avec réserve sur ce sujet.
Moi je vends, je n'achète pas. J'aide les membres de ma famille qui gagnent des dollars et ensuite je vais les vendre. Oui, c'est plus cher d'acheter des dollars sur le marché noir qu'à la banque. Mais c'est bien plus facile de les obtenir sur le marché noir.
Un dollar précieux, explique John.
Si tu as des dollars, tu peux acheter des choses qui viennent de l'extérieur, comme des plaques de fer, des matériaux de construction. Un grand nombre de denrées alimentaires viennent de l'Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie, ou même de Khartoum. Si tu ne possèdes pas de dollars, c'est compliqué d'acheter des choses. Nous ne produisons rien au Soudan du Sud. Il est bien préférable d'avoir des dollars que la monnaie locale.
En plein jour, la vie semble presque normale à Djouba. Mais certaines choses ne trompent pas. Des murs de la capitale sont criblés de balles. De nombreux camions-citernes sillonnent la ville. Ici, pas d'eau courante. Tous les immeubles sont approvisionnés par ces véhicules. Du bord des routes, on peut observer de nombreux squelettes de bâtiments. Le développement de la capitale en plein boom après l'indépendance s'est arrêté, figé par le conflit. Quand la nuit tombe, la ville prend un autre visage. Un couvre-feu est respecté par la majorité de la population à Djouba. Quand le soleil se couche, les forces de l'ordre dressent des barrages. Alors tout est possible. Le Soudan du Sud, un des pays les plus dangereux au monde. L'ONU dénonce les défis quotidiens auxquels font face les ONG dans ce pays. Leur travail est sciemment rendu difficile. 1159 incidents ont été reportés en 2017 concernant leur accès sur le terrain. 28 humanitaires ont été tués l'année dernière. Ces deux jeunes portent un regard critique sur leur pays. John l'analyse ainsi.
Le problème dans ce pays, c'est le tribalisme, la corruption et les jeunes qui sont parfois marginalisés. Cela affecte les gens. Maintenant, la seule solution, c'est la paix. Si nous pouvions avoir la paix, alors tout irait bien. Sinon, il n'y a pas d'espoir. Les dirigeants donnent des armes aux jeunes avec le mauvais conseil de se protéger eux-mêmes selon des considérations ethniques.
Le tribalisme. L'une des faiblesses du Soudan du Sud, où le système scolaire est si peu développé. 72% des enfants ne vont pas à l'école, note l'UNICEF. C'est le taux le plus élevé au monde. L'ethnie, le clan, est alors un point de repère, une référence, mais aussi un catalyseur des violences pour David.
Nous, les jeunes, sommes divisés. Nous vivons organisés selon des lignes ethniques. Certains jeunes, dans d'autres états du pays, ont leur propre leader. On leur donne l'opportunité d'exprimer leur opinion. Mais d'autres n'ont pas cette chance.
Environ 60% de la population sud-soudanaise est chrétienne. L'Église est un acteur essentiel. Elle participe au pourparlers, mais les leaders se sentent impuissants. L'archevêque de Djouba, Paulino Lukudu Loro, s'interroge.
La church is talking, and talking seriously. The church leaders, and they are talking.
L'Église parle, et parle sérieusement. Les leaders s'adressent aux populations, aux dirigeants, et aussi à ceux qui ont pris les armes dans notre pays. Et à tous, nous, nous disons, arrêtez de vous battre, déposez les armes, et ensuite, asseyez-vous ensemble et parlez. Mais malheureusement, nous ne voyons pas de résultats. Dans certaines régions du pays, les combats continuent. Nous parlons, nous prêchons, mais nous ne savons pas où ces prêches et ces discours vont. Qui les écoute ? Nos dirigeants vont bien à l'église et ils écoutent ce que nous disons. Mais nous ne savons pas s'ils comprennent ce dont nous parlons. C'est pourquoi, je le répète, espérons que Dieu touche les cœurs de nos leaders pour les adoucir.
Le Soudan du Sud semble embourbé dans ce conflit. Un pays qui fonctionne selon des termes médiévaux. Les leaders locaux se battent pour protéger leurs terres ou en gagner d'autres, pour la sécurité de leur clan et pour le pouvoir. Mais les jeunes se veulent optimistes et pleins d'espoir. David rêve d'être enseignant.
Mon espoir, c'est de voir la paix au Soudan du Sud, pour que nous, les jeunes, nous puissions avoir une vie sociale et une éducation de qualité. J'espère que lorsque tout cela sera fini, je pourrai finir mes études et ainsi faire changer mon peuple et l'ensemble de la communauté.
John, lui, rêve d'être architecte et de construire le Djouba de demain.
Les gens sont encore sous tension, ils ont des armes dans leur cœur. S'ils réussissent à se calmer, tout spécialement les dirigeants, alors les choses iront mieux. S'ils se concentrent sur la nation, alors le tribalisme sera secondaire. Ils devraient essayer d'arrêter de penser en termes tribaux et s'apaiser.
Des pourparlers sont régulièrement organisés entre les différentes parties, mais aucun accord n'a pour l'instant été trouvé. Des cessez-le-feu sont régulièrement conclus, mais jamais respectés. Sur les rives du Nil, qui traverse Djouba, un baptême est célébré. Les enfants chahutent dans l'eau. Des adultes se baignent nus et font la lessive, insouciants, le temps d'un bref instant. Djouba, un quotidien dicté par la guerre, un grand reportage de Charlotte Cossé, à la réalisation Pierre Chaffanjon.
What a saga can shoot to a kid, the manga as a Sudani. What a saga can shoot to a kid, the manga as a Jinubi. What a saga can shoot to a kid, the manga as a Tajuba. Shikili manga zatu. Kaleda Jerani, yes, Ibu Takunda mana. Anal Badar Bosibu. Shikili manga zatu. Kalinda bibladi yesibu takon jamana ana albadar bosifu shikli manga zatu kalinda jarani yesibu takon jamana ana albadar bosifu shikli manga zatu kalinda bibladi yesibu takon jamana ana albadar bosifu.